Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de lecture. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi, c'est Héloïse. Je suis coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club après avoir renoué avec la magie des mots et le plaisir des livres. Les histoires m'ont toujours passionnée, et plus encore celles des gens, des vrais, ceux que tu croises dans la rue, avec qui tu parles autour d'un café. Je suis convaincue que nos vies sont la plus grande source d'inspiration. Tout est là. Il n'y a plus qu'à observer, se poser et raconter. Dans ce podcast, j'interviewe des personnes pour qui les mots ont pris une place capitale, que ce soit à travers la lecture ou l'écriture. Des personnes comme toi et moi, qui naviguent à travers la vie avec cette boussole-là. Quels sont les mots qui aident à avancer ? Quels sont les mots qui aident à mieux se connaître, à se libérer ? Parce que oui, les mots délivrent. Et c'est ce qu'on va découvrir avec notre prochaine invitée. Chiara, sous son allure menue, c'est une femme dans tout ce que ça comprend de force, de liberté, d'audace et aussi de fragilité. Le jour où ça va mal, très mal, elle ouvre son PC sur une terrasse à la montagne et c'est parti. Tout ce qui tourne dans sa tête et bouillonne depuis de longs mois est rapidement déposé. Son premier roman est enfin terminé et il aborde toutes ces questions d'identité de la femme. Même et surtout, ses aspects les moins convenables. C'est parti pour une discussion, oui, engagée. Bonjour Chiara.
Bonjour Héloïse.
Je suis heureuse, heureuse, heureuse que tu aies répondu à mon invitation. Chiara, je t'ai découverte lors d'ateliers d'écriture.
Oui.
Et après quelques courts textes, je me suis dit, mais quelle plume, quelle force derrière cette plume.
Merci.
Et voilà, on a appris un peu mieux se connaître et je découvre, par hasard, que tu as écrit un premier roman.
Oui, ça me fait toujours bizarre de l'appeler comme ça, mais oui, c'est vrai.
Oui, et alors, commençons peut-être par le début. Est-ce que tu peux te présenter?
Oui.
Qui est Chiara?
Ah, qui est Chiara? Plein de choses. J'ai 43 ans, bientôt 44, et je suis principalement psy. Mmh. J'ai une pratique dans un centre, une pratique privée. Et puis, j'ai ce fil conducteur de l'écriture. D'abord de la lecture, parce que je suis aussi une grande lectrice depuis toute petite. Et puis aussi, j'écris des histoires, je crois, depuis que j'ai 6-7 ans. Mmh. Et voilà. Et je suis un peu ce fil de l'écriture. Et j'ai toujours dit, mon rêve, c'est d'écrire un jour un roman.
Ah oui, voilà. Et donc, ce roman, il a été écrit.
Voilà.
Le mot fin a été posé quand, dans ton souvenir?
Alors, le mot fin, ce roman, il est sorti assez rapidement, j'ai envie de dire, par rapport à ce que je pensais dans mes représentations. En réalité, je pense qu'il est sorti, le gros est sorti en 4 semaines. Donc, je pense que début septembre 2019, du coup.
Ouais.
Oui, mm-hmm. Le mot fin, et puis tout un retravail, encore pendant 8 à 10 mois,
ouais.
Parce que j'ai encore changé plein de choses, mais voilà, le gros de la matière était en 4 semaines était sorti.
En 4 semaines, on va y revenir. Hein.
Oui.
Quand tu m'avais amené cette dimension du temps, j'étais scotchée. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et ce qu'est-ce qui s'est passé est très très fort, donc on va vraiment se permettre d'y revenir. De manière générale, tu as amené déjà que depuis l'enfance, tu écris, tu as ce rêve de l'écriture. Alors, est-ce que tu peux un peu ouvrir l'album des souvenirs avec nous, toi et l'écriture? C'est quoi cette relation?
Alors, c'est fort, hein, parce que je me souviens vraiment, même à l'école, quand on nous donnait des petites dissertations, des petits devoirs. Je me souviens d'un devoir, trois personnes dans un tram, écrivaient quelque chose. Moi, c'était le genre de choses qui me passionnait. Alors après, j'avais une amie aussi, on a écrit des histoires avec des amis, un chapitre chacune à l'école qu'on échangeait. et on continuait sans savoir ce que l'autre allait écrire après. Un cousin aussi avec qui j'ai beaucoup partagé cette passion d'écrire et on se lisait nos histoires quand on se retrouvait le week-end. Enfin, vraiment plein, plein de souvenirs.
Wow.
Et moi, devant cette grande machine à taper au bureau de mon père, j'écrivais à la machine, c'est vrai.
L'écriture à la machine, waouh. Alors là, tu fais vibrer notre imaginaire de toutes ces personnes qui rêvent d'écrire, elles adorent les machines à écrire. Et toi, donc, tu commences sur une machine à écrire.
J'ai commencé sur une machine à écrire et je me souviens très, très bien de l'odeur de l'encre, des rubans d'encre et du bruit, évidemment, des touches.
Ce bruit.
Oui, oui, c'est vraiment quelque chose. Quand j'entends le bruit ou je sens l'odeur, comme ça peut encore me transporter très, très fort. Oui.
Madeleine de Proust, quoi.
Ah oui, vraiment.
Oh, c'est splendide. Oh, c'est merveilleux. Et donc, toi et l'écriture au niveau familial, au niveau de l'entourage, etc., c'est pas quelque chose qui est bloquant ou jugeant ou...
Non, pas du tout. C'est plutôt une famille de lecteurs à la base. Mais je me souviens, parfois, ma maman m'écrivait des petits textes et je les trouvais très, très beaux. Et je pense que mon père a aussi un rêve d'écriture sur d'autres thèmes, hein, pas des romans, plutôt sur son travail, etc. Mais c'est quelque chose de plutôt valorisé, oui, l'écriture.
Super. Donc, tu t'es pas sentie bloquée à chaque fois que tu avais envie d'un élan vers des exercices d'écriture, des créations.
C'était vraiment valorisé. Après, toute la dimension où j'ai pu être plus bloquée récemment, c'est le fait de parler de soi dans l'écriture, qui est autre chose que d'inventer des histoires.
Ouh là là, on va en parler. Parce que c'est notamment pour ça que je voulais t'inviter, parce que quand je t'ai reçu lors d'un week-end d'écriture, tu as d'emblée amené, moi je ne sais quasiment écrire que sur l'intime, oui. Je ne sais pas si je me trompe, mais c'est comme ça que j'ai reçu tes propos. Et c'est quelque chose qui a vraiment éveillé mon attention, parce que c'est quelque chose que je connais très personnellement. C'est quelque chose qui est proposé à travers le Moquis des Livres aussi, l'écriture sur soi, c'est vraiment prôné, c'est vraiment encouragé. Et alors toi, quand tu me dis ça de manière aussi déculpabilisée, décomplexée, moi c'est l'écriture sur moi. Comment ça se passe? À quel moment te vient cette envie d'écrire en jeu, d'écrire sur toi éventuellement, ou des choses que tu as pu, auxquelles tu as pu un peu te frotter dans la vie?
L'écriture en jeu, je pense que ça a été vite avec mes journaux intimes, que évidemment j'en ai toujours eu, là aussi parfois partagé. Hein, je me souviens notamment parce que moi j'ai vécu longtemps en Italie et j'ai une meilleure amie en Italie qui est toujours une amie aujourd'hui. Mm-hmm. Et quand j'ai déménagé en Belgique, on avait des mois où on se voyait pas et on échangeait nos journaux intimes et on écrivait l'une dans le journal intime de l'autre. Donc
c'est beau.
J'avais en même temps la dimension d'écrire en jeu et en même temps déjà cette idée que quelqu'un allait quand même lire ça. Donc c'est pas tout à fait pareil que d'écrire que pour soi, même si c'est une meilleure amie et même si on lui raconte tout. Et puis après, c'est revenu vraiment par les réseaux sociaux, où très très timidement, j'ai commencé à mettre au lieu de juste « je suis là, je mange ça », je me suis promenée là-bas, ce qui peut être chouette aussi, à écrire 2-3 phrases, une petite réflexion, une petite pensée plus personnelle. Et puis est née l'envie au final finalement d'un blog. Oui.
Ah voilà, ça commence par là. D'accord.
Blog d'abord sur des choses un peu tierces, extérieures, des livres, des films ou des thèmes, sans nécessairement m'impliquer ou m'engager en jeu plus que ça, pas plus que ce que je pense de telle ou telle chose. Et puis au fur et à mesure, ça revenait toujours, cette idée de dire mais qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je ressens. Et finalement, le blog, je pense qu'il y a à peu près plus que ça dessus.
C'est ça, ça a évolué vers ça, quoi. Ouais, ouais. Et le passage du blog au déclic, maintenant, il est nécessaire ou j'ai envie d'écrire vraiment un autre objet, quoi.
Alors ça bouillonnait, toujours avec ce rêve d'écrire un livre. Alors peut-être que je l'ai toujours rêvé comme un livre où je racontais l'histoire, une histoire fictive, En tierce personne et pas en jeu, mais voilà, avec cette les personnes qui lisaient mes petits textes me renvoyaient que même si je parlais en jeu, finalement je touchais à quelque chose d'universel, pas au sens que tout le monde vit la même chose, mais que finalement c'est là qu'ils se sentaient le plus rappelés à ce que eux ils étaient, à ce que eux ils vivaient. Et donc, ça prenait vraiment de la force en moi, cette idée d'écrire en jeu. Alors, le moment où j'ai commencé à écrire est un moment très, très particulier. C'est-à-dire qu'il y a eu toute une série d'événements dans ma vie assez rapprochés qui ont fait que je n'allais pas très, très bien. Mmh. Et même j'allais plutôt très mal.
Oui.
Et je me suis retrouvée en vacances après... quelques mois où j'avais fait que courir et essayer de tenir le coup pour plein de choses. Et là, j'ai d'abord traversé une petite période d'insomnie comme ça, où ça, ça tourbillonnait vraiment.
Ça n'arrêtait pas dans ta tête.
Ça n'arrêtait pas dans ma tête. Et puis un jour, je me souviens, en vacances, sur cette terrasse, et j'avais mon ordinateur et j'ai commencé à écrire.
Merveilleux.
Et c'est sorti comme ça, comme quelque chose qui m'a vraiment débordé, dépassé. Et en fait, à partir de ce moment, sur cette terrasse, ben, j'ai pas arrêté. Ça veut dire qu'à chaque fois que j'avais un temps, c'était pour écrire. Que la nuit, je me levais, j'avais un petit carnet, je notais des phrases.
C'est ça.
J'arrêtais pas de noter à côté de mon texte principal des idées. Ah oui, ça, il faudrait que j'en parle. Ça.
On n'arrête pas.
Et voilà, ça a été vraiment très, très prenant, même limite un peu bouleversant.
Oui.
Et c'est pour ça qu'il y a ce temps très, très serré.
Oui,
finalement.
Voilà la réponse. Oui. C'est qu'en fait, 4 semaines, ça peut paraître court. Et en même temps, quand il y a cette urgence et ce besoin presque vital, on peut le dire.
Ah oui, clairement.
De c'était tout sortir.
Vital. C'était vital.
Ouais,
je l'ai
vécu
comme ça. Je l'ai vraiment vécu comme si ça ne sort pas. Ou... Je ne sais même pas si je l'ai pensé jusque-là. C'est vraiment juste d'abord sorti, je l'ai pensé après. Et je me suis dit, tiens, ça m'a sauvée en fait. Si je n'avais pas fait ça pendant ces 4 semaines-là.
Voilà. Donc en fait, les vacances, elles arrivent à un moment donné où je pense, si j'ai bien compris, et, parce que j'ai la chance de pouvoir déjà lire.
J'ai la chance, moi aussi, que
ce manuscrit merveilleux. Ce sont des vacances qui arrivent aussi parce que tu es dans un état d'épuisement physique, émotionnel, intense.
Absolument, oui.
Et tu es seule à ce moment-là? Tu es entourée
Non, je suis avec des amis et avec ma famille, donc ça n'a pas été simple. Mm-hmm. Maintenant, il y avait eu quand même l'événement vraiment le plus marquant, ça avait été le décès de ma maman quelques mois avant, 4 mois avant ce moment-là. Et donc tout le monde savait que j'étais quand même aux prises avec ça, sachant que j'avais une histoire très très compliquée avec ma maman.
Ouais.
Et que ma maman était dans des circonstances assez dramatiques au moment de son décès. Et donc, quelque part, les personnes qui m'aiment et qui m'entouraient à ce moment-là ne s'attendaient pas à ce que je sois en super forme.
C'est ça. Donc, c'était accueilli aussi autour de toi. Oui, oui.
Heureusement, je pense qu'il y a eu deux choses. Il y a eu cet entourage très bienveillant et prêt à accepter aussi que je sois prise par ça. Et il y a eu la nature. Parce que l'air de rien, cette terrasse, elle était vraiment entourée de montagnes. Mm-hmm. Et j'ai fait beaucoup de balades en écrivant aussi cet été-là, des longues randonnées. Et ces deux éléments-là ont permis d'être dans un état propre à ce processus, sachant aussi que je dormais très peu. Donc j'étais un peu fébrile comme ça tout le temps.
Il y a une pulsion il y a une pulsion très très forte quand on entre dans cet état d'écriture et de nécessité d'écrire qui fait que ton corps entier est mobilisé.
Exactement.
Donc je peux comprendre que la nuit aussi, il soit mobilisé.
Tout à fait.
Ça déborde.
Ça tournait tout le temps.
Oui.
Et une fois qu'on est rentré, parce qu'évidemment les vacances n'ont pas duré un mois.
Oui, j'allais dire, c'était un mois là-bas, c'était 4 semaines là-bas.
C'était 2 semaines et j'ai pas commencé à écrire tout de suite. Hein. C'est arrivé au bout de quelques jours qu'on était là-bas. Et puis du coup, c'est surtout 3 semaines après en rentrant où c'était la rentrée, les enfants.
Ah oui, donc il y a la vraie vie qui entre en ligne de compte.
Qui revient de plein fouet. Mmh. Et malgré ça, j'arrivais. Alors, je dis pas que j'arrivais à tout bien faire comme il faut ou à être pleinement présente dans mes autres tâches, dans mon travail, etc. Mais suffisamment. Et puis, alors, toujours avec ce courant qui me traversait, qui faisait qu'une fois que tout le monde dormait le soir à 11h, moi je commençais à écrire.
C'est parti.
Et je m'arrêtais. Je m'arrêtais quand je regardais l'heure et que je me disais, mais enfin, il est de nouveau 1h, 2h, 3h parfois le matin.
Oui.
Vraiment.
Oui. C'était là en tout
oui,
cas. On y reviendra un petit peu par après. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est les circonstances dans lesquelles effectivement tu t'es retrouvée à écrire de manière aussi compulsive.
Tout à fait.
Est nécessaire. Et d'un autre côté, dans les échanges qu'on a pu avoir précédemment, je trouve qu'il y a des thématiques qui sont d'une puissance, des thématiques qui sont très singulières et en même temps, comme tu l'as amené, universelles. Je me permets déjà de dévoiler un petit peu l'intention à travers le titre que toi-même tu comptais donner à ce roman. « Si on est une femme convenable ».
Oui.
Déjà rien que ce titre... On va commencer
tout
par là et peut-être qu'on ira vers les thématiques. Mais si on est une femme convenable, comment ça vient un titre aussi, aussi percutant?
Alors, les thématiques autour de la femme, c'est quelque chose qui me passionne aussi depuis des années. Donc, c'est pas pour rien. Je me souviens un peu, il y a quelques années, quand je partageais en rigolant mon rêve d'écrire enfin quelque chose d'autres que mon blog. Hein. Je disais, je vais écrire un grand texte féministe.
Quoi. Voilà.
Ah c'était mon rêve.
Ouais, mais il faut des élans aussi grands comme ça pour y aller. Hein.
Je ne disais pas que j'en étais capable, mais que c'était mon envie, en tout cas. Que mon grand rêve d'écrire quelque chose qui fasse un peu référence, pas universelle. Mais pour moi, référence, ça veut dire que s'il y a ne fût-ce qu'une femme ou deux ou trois qui sont touchés par ça et qui se disent, tiens, alors c'est bon, pour moi c'est gagné.
C'est gagné, j'ai déjà été cette femme. Je sais qu'il y en aura d'autres. Si vous êtes une femme convenable, moi je lis ce titre avant même de découvrir la suite, hein, les premières pages et puis les suivantes. Si on est une femme convenable, je pense Simone de Beauvoir, Mémoire d'une jeune fille rangée. Oui. Alors, c'est comme si c'était Mémoire d'une jeune fille rangée, mais qu'en fait, c'était la suite.
Ah,
tu vois,
c'est génial.
Parce que jeune fille rangée et puis femme convenable, tu vois, il y a un parallèle. Est-ce que ce sont des inspirations pour toi, des autrices comme ça?
Ah oui, absolument. Oui, c'est vraiment... J'ai lu beaucoup de textes un peu féministes de théorie ou plus de manière plus globale, mais beaucoup de romans. Mm-hmm. Et les romans qui me touchent beaucoup, ce sont des femmes qui parlent d'elles. De leur vie ou de... dans une fiction, hein, mais où on sent qu'il y a quelque chose d'elles, de puissant qui traverse leur écriture. Et c'est ça qui me touche le plus. Mm-hmm. Et c'est vrai que maintenant que je pense au titre, je pense qu'au début, j'avais mis « Si on est une fille convenable ».
Ah, voilà.
Et je me demande si ce n'est pas après quelques retours de quelques... ce que j'appelais pré-lecteurs, les premiers à qui j'ai osé exposer ce qui, une forme plus ou moins aboutie de ce manuscrit, m'ont dit, mais pourquoi une fille? C'est pas une fille, c'est une femme dont tu parles. Et je me suis dit, mais c'est vrai, en fait.
Ça fait une sacrée différence.
Oui, vraiment.
Ça amène encore autre chose, je trouve.
Une autre dimension.
Avançons, parce que je me dis, tiens, on nous écoute. Je pense que certaines personnes ont envie de savoir, d'accord, mais de quoi ça parle, ce roman? Tu le qualifies toi-même d'autofiction, hein, c'est ça?
Oui, tout à fait. C'est une autofiction. C'est un genre que j'aime parce que vraiment, je pense qu'on peut jongler entre l'imagination et vraiment y mettre le plus possible de soi-même et parler en jeu. Et donc, ça me permet vraiment de m'exprimer d'une manière très libre.
C'est ça.
Cette autofiction. Et les thèmes, le thème principal, c'est effectivement, du coup, une femme... qui va pas bien, qui se retrouve à un moment de sa vie et qui ne sait plus très bien qui elle est dans toutes ces dimensions différentes. Au niveau être une femme, une femme qui travaille, une femme qui est en couple, une femme qui a des enfants, donc une mère, et puis une femme qui est censée en tout cas avoir des désirs, mais qui n'en a plus.
Qui n'en a plus.
Et qui a perdu vraiment le contact avec son corps, avec sa féminité, avec son désir.
Ouais, et là, pour moi, il y a quelque chose d'immensément universel et en même temps, peu, très peu, ou pas raconté.
C'est un peu tabou, je pense.
Ouais. J'ai l'impression que ça commence un peu à changer avec Instagram et de nouvelles plateformes où il y a eu peut-être une génération derrière qui est en train un peu ruer dans les brancards.
Oui.
Mais voilà, moi, quand je reçois ce manuscrit et je reçois le titre et les thématiques, je me dis, mais vas-y, cocotte, quoi.
Oh, c'est génial. C'est très... Peut-être d'autant plus que c'est en jeu et qu'il y a cette dimension justement autofiction où on ne sait pas très bien. Il y a cette impression d'être impudique ou pas convenable justement quand
pas
on
convenable,
parle de ces choses-là.
Oui. C'est pour ça que moi je me dis mais vas-y parce que le pas convenable sert vraiment l'écriture.
Tout à fait.
Et je me permets de prendre un petit passage de ton avant-propos, de ton préambule et si tu veux bien le compléter avec moi, je trouve qu'il donne déjà beaucoup de choses. Voilà comment tu commences. On dit que pour certains écrivains, écrire est une question de vie ou de mort.
Je n'ai jamais vraiment compris cette idée, jusqu'à cette nuit.
Et voilà, il va se passer des choses.
Oui.
Cette femme, dans cette quête d'elle-même, qu'est-ce que tu mets dans la suite, sans trop dévoiler l'histoire, bien sûr, mais qu'est-ce que tu mets après ce « jusqu'à cette nuit » ?
Il se trouve qu'elle est dans un état de fragilité extrême et toutes ses fondations, ses repères habituels craquent. Et tout d'un coup, du fait d'être un peu libérée par la souffrance, hein, bien sûr, de tout ce qui la contenait jusque-là, c'est comme si tout alors peut lui arriver et qu'elle s'autorise d'un coup tout, mais sans réfléchir.
C'est ça.
Sans réfléchir aux conséquences non plus, ni aux autres, ni vraiment. Elle est dans une bulle où elle n'est plus que ce qu'elle avait mis de côté pendant longtemps. Elle n'est plus que corps, que sexualité, que femme, et ouais, rien d'autre.
Comme si ça avait bouillonné.
Exactement.
Et qu'en fait, t'enlèves la cocotte et tout se libère. Quoi.
Tout se libère. Et évidemment, donc, elle fait une rencontre.
Ah, voilà, on arrive un peu plus loin.
Une rencontre inattendue. Inattendue et où elle se plonge sans aucune arrière-pensée.
Ouais.
Une histoire très, très, très passionnelle, mais très dure aussi.
Dure, oui, parce qu'il y a encore tout ce qui l'entoure.
Exactement, qu'il faut malgré tout gérer, ne fût-ce que dans la forme, même si sa tête n'y est pas du tout.
Ouais.
Elle n'est pas là, elle n'est pas ailleurs que dans
l'histoire. Mais physiquement, dans le matériel, il y a quand même des choses qui font que...
Faut quand même assurer. Ce qui me semble être dans les pages est qu'il n'y a rien d'autre qui existe qu'elle et ce Alex, donc, qu'elle rencontre à ce moment de sa vie particulier.
C'est ça, oui. Et quand tu es dans ce moment d'écriture et que tu te rends compte que ton autofiction, ton champ de l'imaginaire se libère dans cette direction-là, au moment d'être dans cette écriture avec ces sujets entre guillemets pas convenables, je mets bien des guillemets, comment tu t'en rends compte à ce moment-là que tu abordes des sujets sensibles qui peuvent déranger certaines personnes?
Je m'en rends pas du tout compte. C'est-à-dire que l'urgence d'écrire était telle que je me souviens, je me disais vraiment, de toute façon, je n'en sais rien à ce que je vais en faire de ça. Il fallait juste que je le sorte.
Ouais.
Et je me disais, peut-être que jamais personne ne lira ça. Et ça me permettait de me protéger de l'idée que...
Ça, c'est très libérateur, en fait.
Et puis, tout d'un coup, quand il a été sorti après 4 semaines, je me suis dit, OK, tel quel, il n'est sans doute pas lisible par quelqu'un d'autre, mais peut-être que si je regarde, je rajoute, j'avais encore des petites choses que je voulais retravailler dedans, mais toujours sans trop me projeter vers un lecteur potentiel, toujours rien que pour moi d'abord.
C'est précieux.
Vraiment. Et puis, à un moment, ça a été fait. Je me suis dit, OK, il est tel que je ne pense pas pouvoir... Évidemment, on peut toujours améliorer, évidemment, on peut y retravailler. Et d'ailleurs, même après, j'ai eu encore des suggestions pour y retravailler. Je les ai suivies jusqu'à un certain point. Et puis, je me suis dit, au même temps, ce que je voulais faire, il est là.
J'adore ça parce que oui, on peut toujours retravailler jusqu'à l'extrême et en même temps, j'aime bien que tu amènes cette idée et puis non, là, stop. Tu restes maîtresse de ton projet en fait.
Oui, j'essayais vraiment de sentir parce que je suis... À chaque fois que j'écris un texte, c'est très compliqué pour moi, même dans d'autres domaines, au travail ou dans d'autres situations, d'y retoucher parce que quelqu'un m'a dit que.
Ouais.
Alors là, quand j'ai décidé de le faire lire à quelques-uns, d'abord vraiment timidement, je me suis dit, si tu le fais lire, il faut que tu sois quand même prête à entendre que les gens vont en penser quelque chose.
Ah oui, oui, oui.
Et qu'ils vont peut-être te dire que... Il y a des choses qui ne leur ont pas plu ou qu'ils ne trouvent vraiment pas bien développées ou qu'ils trouvent trop ou trop peu, etc. Et j'ai senti que j'étais prête à ça. Et donc, les premiers 20 prélecteurs comme ça qui l'ont lu m'ont vraiment permis d'y retravailler, vraiment.
Vraiment superbe. Vraiment.
Mais après ça, voilà, il y a eu ce moment où je me suis dit non, là peut-être qu'il ne sera jamais publié tel quel. On verra. Mais en tout cas, moi, ce que je voulais faire, c'est ça.
Et comment ce truc remonte en toi, alors que là, c'est OK. Ça me semble OK.
Quand j'ai senti que... je pense que le critère était... Parce que parfois, ils disaient, oui, mais ça, c'est frustrant. Tu n'en dis pas assez sur ces personnages ou on ne sait pas très bien qui ils sont.
Oui.
D'ailleurs, il y a un personnage, clairement, qui est le compagnon de celle qui explique l'histoire, qui est pratiquement inexistant. Alors, ce n'était pas voulu, mais finalement, en relisant, je me dis, mais c'est comme ça qu'elle vit les choses. Rien n'existe.
Ça transpose ce truc-là, quoi.
Ils sont inconsistants, ils n'existent pas, il n'y a qu'elle et Alex. Et donc, si j'en fais un personnage à part entière comme elle et Alex, ben, ça change la nature de...
Totalement, oui.
Alors, il faut parfois supporter que les autres soient frustrés aussi et qu'ils disent « je préférerais en savoir plus » ou « j'aimerais que ce personnage parle, que ce personnage existe ailleurs ». Mais...
Et en même temps, on passerait peut-être probablement à côté de l'écriture et du style de Chiara.
Oui, oui.
Parce que toi, tu poses des choix, tu poses des lignes directrices dans la structure, dans la forme de ton récit. Et comme tu le dis, c'est toujours bon et très riche d'entendre des retours et de les prendre quand ils sont justes. Et en même temps, bah, si tu veux simplement répondre aux attentes de nouveaux lecteurs, ce besoin d'expression qui était d'abord pour toi, ben, il est un peu trahi, quoi. Voilà. Mm-hmm.
J'ai essayé que mon curseur soit vraiment là où je sentais que ça dénaturait
c'est ça.
Mon intention, et là où, par contre, c'était vraiment une amélioration de forme ou des longueurs ou des choses dont on peut se passer. Voilà.
C'est intéressant parce que j'entends le mot « intention oui. » et quand je reçois des plumes au tout début d'un coaching littéraire, un début d'un projet, un baby projet, comme je dis, ce sont les deux premières questions que je pose à chaque fois. Quelle est l'intention de ton projet et quelle est la finalité?
Oui, c'est vrai.
Et du coup, c'était quoi cette intention véritable au début de ce projet, au début de cet élan d'écriture?
Alors, il y a eu cette urgence vitale, évidemment. Donc, c'était un projet sur du long terme, mais j'avais aucune idée, 2 heures avant de commencer à écrire, que ça y était, que c'est ça qui allait se passer.
C'est magique, j'adore, c'est génial. C'est tout simplement génial.
Et puis, donc, ça a été je me dis, après coup, est-ce que j'ai toujours écrit, mais c'est peut-être là que je suis devenue... écrivaine, si on peut dire, en écrivant ça. J'ai eu cette impression-là à un moment, que ça changeait ma nature, que ça changeait quelque chose de profond, pas parce que j'écrivais, parce que j'ai toujours écrit, mais par le processus qui était en train de se passer. Mm-hmm. Et puis, finalement, l'intention et la finalité sont arrivées plutôt après coup, moment où j'ai exposé ça. Et je me suis dit, alors là, ça devient quelque chose d'adressé. Et alors, il y avait cette idée-là. Si ça peut toucher, s'il y a une femme qui se pose une question, s'il y a une femme qui se dit « mais oui, c'est vrai, on a le droit de parler de ça » ou « ça, ça existe » ou « ça, j'ai oublié de moi » ou même ne fût-ce que « tiens, ça, je ne suis pas d'accord ».
Ou même, titiller, chatouiller, quoi, le poil à gratter.
Oui, soit embêter même et qu'elle puisse se dire « non, mais moi ça, je ne ferai pas comme ça parce que » et qu'elle puisse s'argumenter, ne fût-ce qu'elle-même, pourquoi.
Je pense à un livre qui s'appelle « La femme qui fuit ». Et une femme qui abandonne ses enfants.
Ah, d'accord.
Et c'est un livre qui a eu un succès immense et qui a suscité aussi beaucoup, beaucoup de succès critiques, populaires. Alors qu'en fait, le sujet est quand même trash, quoi. C'est une femme qui abandonne ses enfants. Mais c'est ce que tu amènes et c'est ce que je retrouve aussi dans ton livre. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a peut-être pas envie d'être complètement dans l'identification avec cette héroïne. Pas toujours, pas à chaque fois.
Exactement.
Mais ça suscite des questions sur soi-même. Mmh. Et moi, comment je me positionne par rapport à telle ou telle situation.
Voilà.
Donc, tu mets ton lecteur ou ta lectrice en mouvement vis-à-vis d'elle-même. Ça, je voulais te le dire.
Ah, c'est super, parce que c'est vraiment...
C'est très, très fort, franchement. Ah oui, et en fait, les thématiques sont justement très, très secouantes. Moi, j'adore quand ça secoue, c'est quelque chose que je trouve merveilleux. L'écriture est vraiment un outil pour ça. Faire rêver, évader, aussi, apprendre des connaissances, édifier, bien sûr. Mais quand tu lis quelque chose, je trouve que c'est important aussi d'être secoué. Et quelqu'un qui prend la plume avec ça, je trouve que c'est une force et un courage en lui. Et je trouve que tu es très courageuse. On peut un peu aborder plus précisément ces thématiques de cette autofiction. Parce qu'au début, on reçoit aussi des thèmes comme cette femme qui s'est perdue.
Oui.
Mais du coup, il y a des thèmes qui sont encore plus remuants, qui est le regret d'être mère.
Tout à fait, oui.
La thématique du désir
sexuel. Sexuel, oui.
Du contact de son corps avec la sexualité.
Tout à fait.
Et quand tu le relis et que maintenant c'est adressé, on arrive à encore une autre question. Cette thématique-là, tu es toujours OK de les aborder avec cette idée que ça devient public, ça va devenir public?
C'est important. Si ça, oui, vraiment, je pense être prête à assumer ça parce que c'est important et parce que je crois que c'est vraiment important de pouvoir en parler et en discuter, justement. Alors, c'est une des idées les plus taboues de ce qu'il y a dans ces pages. Et d'ailleurs, dans les retours, je l'ai senti aussi, que ça, c'est rude.
Tu
ça,
le
c'est
sens, très non, rude. Ouais. Oui. Comment c'est reçu, justement?
Dire à un moment, je préférerais que mes enfants ne soient pas là, ne fût-ce que cette phrase... Et d'ailleurs, eux aussi, ils n'existent pas. Pas plus que le compagnon. Ils ne sont pas du tout un critère de quoi que ce soit dans ce qu'elle raconte. Et ça, c'est très dur. Mm-hmm. Et en même temps, ça peut ouvrir aussi une discussion, un dialogue sur... mais en fait, par moment, ça arrive. Alors, ce n'est pas un état... sur un continuum, c'est pas un état rigide et c'est pas, ça dure pas des années ni des mois. Et ça ne mène pas à quitter à chaque fois sa famille non plus, même si ça peut.
Oui.
Et je pense que c'est sur ce continuum-là que parfois des femmes se disent « je dois tellement exister que, en dehors de tout ce que j'ai eu comme identité jusque-là, que je vais jusque-là, parce que de toute façon, je vais faire que du mal en restant dans cet état-là ici, j'imagine. Hein. Ce n'est pas un choix que j'ai dû faire. »
Oui, en tant qu'écrivaine, tu te projettes dans ces états-là pour les explorer, en fait.
Exactement.
C'est un très beau processus.
Et ça part un peu de cette idée. C'est plus facile de dire d'un compagnon, il y a des jours où je ne l'aime pas, parce qu'il y a des jours vraiment où voilà, un partenaire nous énerve.
Discussion avec des copines.
Qu'est-ce qui m'a pris de l'épouser ou qu'est-ce qui m'a pris de faire ma vie avec un gars comme ça ou une fille comme ça.
Mm-hmm.
Mais c'est vrai qu'on n'a pas la même légèreté à dire, en ce moment, mes enfants, je ne sens rien. Ouais. Ce n'est pas juste qu'ils m'énervent, ce n'est pas juste... qu'il m'agace, c'est pas juste que ça m'arrangerait bien qu'il soit pas là cette semaine parce que j'ai un gros truc au boulot.
Ouais.
C'est vraiment de dire, mais je ne sens rien, ils ne m'intéressent pas, je sais pas pourquoi je les ai faits.
Et puis le corps.
Oui.
Quand tu écris, que tu te projettes dans cette relation avec le corps de l'héroïne, de la narratrice, quand tu te projettes dans des scènes chaudes, qui réveillent tous les sens, explicites, des scènes parfois qui vont dans cette thématique de l'adultère aussi, etc. En tant qu'écrivaine qui est dans la projection de son personnage, qu'est-ce que ça suscite en toi, celle qui écrit ?
Ah, j'ai dû me questionner par rapport à toutes ces choses-là, évidemment, et suivre aussi le fil de mes réflexions et de mes ressentis personnels, ça c'est sûr. Je ne sais pas si on peut écrire là-dessus sans se connecter à son corps, finalement. Peut-être, hein. Peut-être qu'on peut rester très, très éloigné, mais je pense qu'il faut, vraiment pouvoir être connecté un peu à son corps et à sa sexualité pour pouvoir en parler librement.
Oui.
Et assumer aussi ces aspects-là et faire un travail, parce que c'est tout un travail de tous les jours et on revient en arrière plein de fois par rapport à ça. Non seulement dans sa vie, pour pouvoir vivre... comment chacun avec son bricolage personnel, ces dimensions-là, et puis pour pouvoir les écrire. Parce qu'une femme qui écrit des scènes de sexe aussi explicites, on voit bien qu'un homme peut écrire un très grand roman avec des scènes explicites sexuelles, et ça reste un grand roman et ça reste de la littérature générale. Mais quand une femme fait ça, c'est comme s'il n'y a pas de genre vraiment, c'est un peu trop cru ou un peu trop explicite. Est-ce que c'est vulgaire, mais alors est-ce que ça devient de la littérature érotique ?
Tout à fait.
Est-ce que s'il y a trop de gros mots, mais alors on ne peut pas donner ça à lire à tout le monde.
Oui, c'est presque censuré, rated R. D'où le titre de cette femme convenable, en fait. Est-ce que toi, quand tu écris et que tu maintenant ce livre est fini, qu'il est à destination d'un public, est-ce que tu te sens être une femme pas convenable ?
Alors non. L'idée, c'est qu'on puisse se dire... déjà, le terme convenable est triste parce que ça ramène toute la dimension de moralité qui est présente... peut-être plus alors dans la vie d'une femme. En tout cas, une femme est toujours confrontée à cette idée de moralité et dans son rôle de mère et dans le rôle qu'elle a, dans la place qu'elle a dans la société. Et donc, ça ne devrait même pas exister de pouvoir dire si une femme est convenable ou pas.
C'est ça.
Et donc, tout est convenable. Tout existe et que donc, la suite pourrait être, si on est une femme convenable, on n'écrirait pas ça et on ne vivrait pas ça.
Ouais.
Ce que l'héroïne raconte.
Merveilleux.
Mais en fait, si.
Ah, génial. C'est génial. C'est super jubilatoire d'entendre ça.
Merci beaucoup.
Et de le recevoir dans les mains avec un livre vraiment merveilleux. Justement, tu as fait ces démarches dans l'idée d'être édité.
Oui.
Tu continues de faire ces démarches, il y a des retours, etc. Donc, il y a vraiment clairement, explicitement cette volonté maintenant que ça sorte. Quoi.
Maintenant, oui. Ça a été une étape encore. D'abord, je l'ai fait lire, j'ai eu des retours, je me suis dit OK. Alors, il y a eu aussi il y a plusieurs retours plus, comment est-ce qu'on peut dire ça, qui m'ont plus que d'autres fait dire, en fait, c'est possible.
Ouais.
Parce que finalement, je demandais un peu aux gens qui lisaient, mais tu verrais ça dans une librairie, tu trouverais ça pas... Est-ce que tu trouverais ça bizarre, que ça n'a rien à y faire, ou que c'est pas, ça n'a pas le niveau ou... Voilà, c'était ça ma question. Et puis, il y a eu quelques retours qui étaient vraiment importants. J'ai la chance de connaître une journaliste romancière belge,
ouais.
Que je connais un peu, pas bien, on n'est pas amis, mais on est un peu plus que, on est connaissances, quoi.
Ouais, des connaissances.
Et à un moment, j'ai eu le courage de lui demander si elle voulait
mais
bien
mais c'est,
le
j'adore,
dire.
Audacieuse.
Voilà. J'ose, c'est ça aussi, j'ai suivi un fil d'oser de plus en plus par petits pas, d'abord.
Ouais.
Voilà. Et alors, elle a accepté, ce qui a été un grand moment pour moi. Et puis, elle a pris le temps. Et c'était la première fois qu'on avait un échange en direct aussi long, elle et moi, mm-hmm. autre que par les réseaux sociaux ou par des petits chats. Elle a pris un temps au téléphone, une demi-heure, pour vraiment le passer en retour.
Fameux signal, hein.
Alors ça, je me suis dit... Et alors elle m'a dit, à la fin de cette conversation, est-ce que tu vas l'envoyer à des maisons d'édition ? Et je me dis, mais si elle me pose la question... Peut-être qu'alors c'est possible, si elle pense que c'est faisable. Alors,
si dans sa tête c'est concevable,
exactement.
Avec peut-être oui, cette expertise qu'elle a dans ce domaine-là.
Tout à fait. Et donc je lui ai dit à ce moment-là que je n'en savais encore rien, que j'attendais encore la vague des retours, mais que voilà, évidemment j'étais hyper touchée. Après ça, je me suis quand même autorisée, on était dans le confinement en 2020, en juin à peu près,
oui.
à l'envoyer par PDF à 3, 4, allez, 5 maximum maisons d'édition. Un peu. PDF, c'est un peu...
L'air de rien, voilà, glisser sur le coin de la table.
L'air de rien, par mail. Et puis j'ai tout à fait arrêté. Et en octobre, là, j'avais été la voir à une pièce de théâtre. Et après, voilà, on discutait. Et puis à la fin, elle m'a dit, tiens, et alors, ton livre, il va être édité. Et là, je me suis dit, ok, essaye d'entendre maintenant que...
Entendre.
Et alors là, j'ai fait ça. Donc je les ai imprimés en vrai.
On le voit,
j'ai
là.
J'ai
ouais.
vraiment une liste d'adresses de maisons d'édition. Et là, je...
Mm-hmm.
Là, je me suis dit, allez, vas-y, maintenant, c'est bon.
C'est ça. Mmh. Oh, c'est super. J'adore. J'ai tellement foi dans la suite de ce projet.
Ah, ouais.
Par son côté, voilà, atypique, singulier, très fort. Et du coup, va arriver à ce moment de retravail d'écriture. Parce
oui.
que tu nous parles de 4 semaines
oui.
qui sont d'un côté passionnel, presque
Exactement.
Compulsif, vital, un état de transe presque. Et puis, tu te dis, est-ce qu'il est complètement montrable, lisible, tel quel ? Quand tu commences le travail de réécriture, c'est ce qu'on appelle le travail de réécriture, et beaucoup de gens, beaucoup de plumes, oublient qu'il y a ce travail-là, ouais. après le premier jet.
C'est le plus long, en fait.
Moi, j'ai envie de t'emmener là-dedans, parce
oui.
que c'est un fameux travail, et je ne l'aborde pas toujours très régulièrement, mais... Est-ce qu'on peut en parler ? Parce
oui.
qu'il a été plus long chez toi, vu que l'écriture a été plus courte,
Exactement.
On va dire. Comment ça se passe ?
D'abord, évidemment, j'ai dû mettre ça de côté de manière presque violente, parce que ça m'avait tellement habité.
Tu as expulsé le bazar.
Voilà. Il fallait que ça parte un peu. Et c'était une façon aussi d'éloigner des choses douloureuses. Hein. Enfin, l'idée aussi de mettre ça sur papier, c'était de dire, après, ça devient un peu moins douloureux à l'intérieur.
Tu t'es déchargée de certaines Exactement. Choses et elles reposent là, oui.
Qui faisait partie du mouvement initial. Et puis, petit à petit, voilà, j'y revenais. Par exemple, au début, il n'y avait pas de paragraphe, il n'y avait pas de chapitre. Et puis, parfois, j'avais noté, raconté telle anecdote.
Ouais, ouais.
Et alors, une chose, par contre, c'est que j'avais beaucoup de plaisir à le relire.
Oh, j'adore
oui.
quand tu dis ça. Qu'on a le droit d'aimer se relire.
Vraiment. Alors là, j'en savais encore rien, s'il y aurait ne fût-ce qu'une autre personne au monde qui le lirait à part moi, mais je me disais, j'ai vraiment du plaisir à le lire et ça m'aidait.
Mm-hmm.
Et donc, à chaque fois que je le relisais, je changeais des petites choses.
Ouais, ouais, ouais.
Non seulement les fautes, c'était plein de fautes, mais vraiment de me dire, tiens, mais cette phrase, ça répète. Et puis,
ouais, ouais. C'est comme ça que ça commence.
C'est comme
fait.
Ça. Et donc, j'avais ce processus vraiment dans des moments où j'avais un peu le temps, où j'étais pas nécessairement ni trop mal ni trop bien, où je relisais à chaque fois, je rajoutais, je changeais de place à des choses, et ça, ça a été vraiment très très lent. Et je pense que les 10 premières personnes à qui je l'ai fait lire, c'était vraiment des personnes qui m'ont aussi beaucoup aidée sur le fait de remettre en forme
ouais.
Les choses. Et j'y ai beaucoup retravaillé après ces 10 premiers retours, voilà, en me disant structure, parce qu'en fait, il y a une structure. Qui est particulière, qui est très éclatée au départ et puis qui devient...
Et qui différent. Est très originale, pour le coup. Et c'est vrai qu'il fallait peut-être resserrer un
voilà.
petit peu, oui.
Il fallait nommer, faire des espaces. On ne comprenait pas très bien pourquoi j'avais mis un espace là et pas là. Enfin, voilà,
oui,
donc,
oui.
vraiment tout un travail à ce niveau-là.
Et parfois de recontextualisation aussi. Parce que tu écris dans un jet. Surtout,
un jet.
Typiquement, le process dans lequel tu t'es inscrite, qui n'est pas le même chez tout le monde, mais c'est un process que je vois aussi chez d'autres plumes.
Oui.
Il y a ce geyser.
Oui, c'est ça.
Et en fait, c'est tellement organique, spontané, que tout n'est pas nécessairement dans l'ordre et dans la bonne structure. Donc, en fait, on a une sorte de magma et il faut un petit peu le travailler avec. Tu l'as senti, toi ?
Oui, j'ai senti vraiment ça parce que d'ailleurs, j'ai écrit la fin assez vite, en fait. Hein. Et puis, c'est pas resté la même fin, évidemment. Il y a même eu des rajouts.
Ouais.
Mais j'avais la fin avant de savoir ce que j'allais encore mettre dedans.
La fameuse finalité.
Oui, exactement.
À quoi j'amène, quoi.
Je vais amener à ça.
Oui, oui.
Parce qu'il fallait mettre une fin à quelque chose. Et sinon, ça pouvait continuer comme ça. Parce qu'à un moment, je me suis demandé, mais quand est-ce que je vais m'arrêter si ça continue
Oui.
mais oui, et donc à un moment, j'ai ponctué. Et alors oui, clairement, des choses où je... En fait, je n'ai pas écrit dans le même ordre que les pages, évidemment. On écrit un morceau là, un morceau vers la fin, un morceau...
De manière éclatée. Hein.
Éclatée, et donc après, il faut voir si c'est cohérent ou pas. Et ça, c'est qu'en relisant et en faisant lire à d'autres qu'on se rend compte de ça. Il n'y a pas moyen de le faire pendant, en tout cas, pas tel que je l'ai vécu. Et c'est très long.
J'aime vraiment bien que tu puisses exposer ça dans notre échange parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent et qui se trouvent bloquées à cet état-là, en fait. Il y a encore tout ça à faire, par où je commence. Certaines personnes sont bloquées dans l'idée d'y aller et d'écrire, mais d'autres, c'est plus tard. Quand ça devient gros, volumineux, conséquent et on ne sait plus par quelle boule prendre.
Oui, tout à fait. Après, je me souvenais, j'avais fait un seul, avant le confinement, un seul atelier lecture dans ma vie, écriture dans ma vie. Et je me souvenais de l'animateur qui avait dit ne commencez pas avant d'avoir terminé une partie, au moins un chapitre ou une partie ou quelque chose d'un peu... Ne commencez pas à corriger toutes les phrases avant d'avancer parce que sinon, vous allez vous bloquer dans une recherche de perfection.
Ah oui, oui. Et puis, ça bloque le côté créatif, voilà, imaginaire.
Toute l'inspiration. Et ça, j'avais retenu. Et bon, là, de toute façon, je n'avais pas le choix tel que ça s'est
fait. Oui, j'allais dire, en fait, toi, tu ne t'es même pas trop posé la question vu que c'est sorti, ouf, comme ça. Éruption volcanique. Mais je te sens volcanique, je sens qu'il y a quelque chose en toi qui est de ce tempérament-là et qu'on retrouve dans le format, dans les thèmes, dans l'écriture, le style. Justement, l'écriture et le rituel, parce que celui-ci est terminé,
oui.
Il est en train de suivre son cours de recherche d'une suite.
Oui, tout à fait.
Et puis, en fait, nous, on se rencontre parce qu'il y a le besoin d'écrire un deuxième. Et là, ça bloque.
Ça me bloquait. Ton atelier et toi, vous avez débloqué ça.
Ah.
Mais clairement, et j'étais bloquée par plein de choses. Déjà, d'abord, par l'idée que d'abord, il fallait quand même que je sache ce que celui-ci allait devenir.
Ouais.
Il m'a fallu tout un temps pour me dire, ah, ben non, en fait.
Ouais, tout chevaucher en même temps, c'est pas évident.
Maintenant, en tout cas, tu vas plus y toucher. Donc, tu suis le dossier envoi, retour, etc. Mais tu peux te lancer dans autre chose.
Ouais.
J'avais l'envie, mais alors j'avais cette grande question de me dire, mais est-ce qu'il faut que j'aille si mal pour que quelque chose surgisse?
Est-ce que ça devrait se passer comme ça à chaque fois?
Parce que j'y tenais pas spécialement. Et en même temps, du coup, de me rendre compte que si c'était pas ce volcan qui venait tout seul, il allait falloir que je structure un peu plus les choses, notamment au niveau du temps, de l'espace, de quelle place j'allais donner... à ça et puis de structurer à l'avance un peu les choses avant qu'elles me dépassent. Et tout ça me bloquait beaucoup parce qu'alors j'avais l'impression que ça serait pas si bien ou que...
C'est ça.
Et puis finalement, parce que moi j'aime bien suivre le fil des rencontres, on s'est rencontrés, j'ai vu que tu proposais cet atelier pour booster son projet d'écriture et je me suis dit, si c'est pas un signe ça, vas-y.
J'adore, quand on parle de signe, je me dis ça marche, ça fonctionne.
Et donc je me suis dit, je suis bloquée, j'ai envie d'écrire, j'ai plein de matières, plein de choses que j'ai déjà écrites, des petits textes, des idées, et c'est comme si ça prenait pas forme. Et clairement, avec le week-end qu'on a passé il y a 2 semaines, déjà sur place, j'ai écrit 6 pages.
Et alors, franchement, je vous le dis parce que j'ai reçu le premier manuscrit et puis il y a 6 pages qui viennent d'un coup comme ça. Et autour de la table, il y a 7 autres personnes qui sont bouche bée, qui ne savent pas quoi dire tellement c'était... À nouveau, mais d'une puissance.
J'étais très touchée.
D'une force révélatrice. J'ai l'impression que tu l'as senti se manifester en même temps que nous. C'était très émouvant.
C'était un grand moment pour moi. C'est surtout que j'ai jamais lu devant des personnes présentes dans la même pièce quelque chose à moi, à haute voix, quelque chose que je viens d'écrire en plus. Et puis oui, il y avait une énergie incroyable. Déjà de tout le week-end et de leur projet à eux. Et puis.
Ouais.
Ses yeux, ses retours, ses vibrations, c'était impressionnant, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a vraiment fait sentir que oui, ok, c'est ça, c'est, vas-y maintenant.
Et, ouais, ouais, ouais.
Et depuis, bah, ça fait que 2 semaines, c'est vrai que je prépare beaucoup de choses autres, et d'autres choses que je dois écrire moins chouettes. Mais, mais j'ai continué, ouais. D'ailleurs, sur le carnet de ce week-end-là, oui, ça, il ne faudra pas que j'oublie d'en parler, ça, je vais... Et
alors, la j'écris machine encore était des lancée. Phrases, et
pas grave, c'est lancé maintenant, je sais.
Du coup, est-ce que tu sens que, oui, tu es écrivaine?
Alors,
et pas qu'un livre parce que j'en avais besoin et que ça m'a sauvée et qu'à ce moment-là, c'était cette bouée-là. Est-ce que tu te sens écrivaine maintenant?
Alors, c'est dur à dire, hein, ça fait toujours un peu prétentieux. Mais,
c'est dur à dire, oui.
Mais oui, j'ai pas l'impression de pouvoir vivre sans ça et que ça fait tellement partie de mon identité que ça ne veut pas dire que je vais en vivre un jour ou que quelqu'un d'autre va le savoir que moi. Mais...
En ton fort mais, intérieur, comment ça se passe?
C'est une partie importante de mon identité. Oui,
ouais, elle te constitue.
Vraiment, sans l'acte d'écrire, je ne peux pas me définir.
Oui, je le reçois très fort dans nos échanges. Et c'est vrai que pour moi, c'est la bonne définition, c'est la bonne réponse. Ça me constitue, ça me définit. Qu'importe si c'est lu, si c'est édité, si je gagne de l'argent... C'est moi, j'écris.
Oui, vraiment. Oui. Et tu as abordé ça dans l'atelier. C'est vrai que cette difficulté à se... On se vit toujours comme s'autoproclamant quelque chose sans avoir une vraie reconnaissance par un tiers. Mais en fait, un tiers, il suffit d'une personne. Mm-hmm. Voilà. Et...
Mais il y en a plusieurs, franchement. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Parce que je vois aussi les soutiens qui te donnent des petits coups sur l'épaule. Allez, vas-y, continue. J'ai vraiment observé ça de loin et... Il y a aussi un soutien dans ce sens-là. Puis quand tu amènes cette journaliste, autrice et d'autres personnes en fait, qui gravitent autour de toi, quand tu dis « j'entends », je trouve que cette phrase est merveilleuse.
Ah, oui.
Consciemment, tu te tournes vers ces signes et ces signaux qui te disent « en fait, continue, ta voix, elle est par là ».
Tu parlais des cailloux blancs, pour moi, c'est vraiment ça. Mmh. Et malgré tout, malgré le fait que c'est un peu réseaux sociaux et surtout en période de confinement, tout ce soutien... de personnes qui n'ont pas nécessairement lu ni celui qui est déjà fini, ni ce que je suis, et qui liront pas ce que je suis en train d'écrire tant que ça sera pas abouti, ou que ça aura une forme suffisamment aboutie pour moi. Mais c'est super important pour moi. Et souvent, quand on a des retours positifs, on a tendance, si on n'est pas très sûr de soi, à se dire c'est parce que c'est mes amis, c'est parce qu'ils sont gentils, c'est pour pas me blesser.
Cette petite voix négative qui tue le bazar.
Et comme ça, on peut mettre tout ça de côté et pas l'entendre. Mm-hmm. Et puis, à un moment où, effectivement, comme tu dis, on peut se dire, mais entend quand même qu'il y a quelque chose qu'on te dit et qu'on te dit beaucoup, souvent, ou même ne fût-ce qu'une fois, 2 fois, 3 fois.
Ouais.
Mais on l'a dit, alors entend. Oui, c'est vrai.
Ça, c'est important. C'est une force en soi aussi de pouvoir se tourner vers ça, je trouve. Est-ce que tu as des conseils? Parce que bon, voilà, 2019, ce processus vraiment où tu te sens toi-même devenir vraiment cette personne. On est en 2021, ça continue. Est-ce que tu as des conseils, des petites choses que tu as envie de partager avec quelqu'un qui nous écoute et qui se questionne par rapport à son envie d'écrire ou à son état d'écriture?
Ah, ça c'est important. J'aimerais vraiment pouvoir structurer un peu ma pensée, mais comme ça, spontanément, je me dis, j'ai vraiment ce fil de oser, oser d'abord. Si on a une envie, il faut oser, et à un moment, il faut arrêter de préparer ou d'attendre que quelque chose se passe de l'extérieur pour qu'on se dise c'est possible, mais de s'autoriser quelque chose et oser.
Mm-hmm.
Et oser, ça peut être juste noter ces 2-3 phrases qui tournent en tête sur un cahier, et puis de voir s'il n'y a pas autre chose qui suit. Et puis on verra.
Ah, c'est génial. Ça met beaucoup de légèreté, tu vois, dans cette idée qu'on peut écrire, parce que ces phrases, ces mots tournent dans la tête. C'est ça que tu amènes. Et puis peut-être qu'ils débouchent sur autre chose après.
Je pense que c'est déjà une chose de voir ces mots sur le papier, que ce soit à la plume ou à l'ordinateur ou à la machine à écrire.
Aussi, la fameuse machine.
C'est quelque chose, ça prend une dimension, et c'est là qu'on se rend compte si ça va aller plus loin ou pas. Et oser aussi, j'ai envie de dire, oser vous exposer. Alors, ça ne veut pas dire se mettre à nu tout le temps, à 100%, partout et n'importe comment.
Ouais, ouais, ouais.
Mais parfois, de peur de ce que les gens vont penser de ci ou de ça. Alors, s'exposer, ça peut être aussi juste ça. J'ai envie de ça. Alors, je ne sais pas si ça va plaire, mais comme j'en ai envie, j'essaye. Enfin,
ouais,
plutôt dans ce sens-là, de oser s'exposer, mais pas...
C'est très très fort ce que tu amènes, parce que oser s'exposer, ça va même encore au-delà de oser. Oui. Oser s'exposer, ça veut dire aussi que je vais accepter de me confronter à certaines choses.
Oui.
Et je vais accepter le processus de transformation dans lequel ça va m'amener. Parce que s'exposer, c'est un acte symboliquement fort. Hein.
C'est très fort et c'est très dur. Parce que c'est vrai qu'en plus, quand on le fait, il y a des retours pas super.
Tu sens que ça bouge autour de toi quand tu le fais
Oui, pas très. J'ai pas eu de confrontation, de dispute ou de grosses. Oui, rupture ou des choses comme ça, mais je sens que ça change.
Mm-hmm.
J'ai dans son entourage quelqu'un qui se met à parler d'elle de manière un peu plus large.
Ouais.
C'est pas évident pour tout le monde. Et je peux comprendre d'autant plus pour ceux qui sont proches. Je me souviens aussi d'un petit texte que j'avais écrit sur les réseaux sociaux qui était une première percée vers l'intime où je parlais justement de cette relation avec ma maman, d'un coup de fil que j'avais eu avec ma maman. Et je me souviens que mon frère m'avait appelé pour me dire que c'était pas évident pour lui que je mette ça sur Facebook.
Ça doit pas être évident, effectivement.
Et tout ça, il faut se dire, ok, c'est vrai qu'il faut faire attention. Et notamment à ce moment-là, je me suis excusée parce que je l'avais pas prévenu. Donc, il l'a trouvé comme ça en ouvrant son... Mais en même temps, je me suis dit, mais même si je l'avais prévenu et qu'il m'avait dit, je préfère pas,
à un qu'est-ce moment, que tu fais
qu'est-ce que j'aurais fait?
C'est ça la question.
Je pense que je l'aurais quand même publié.
Mm-hmm.
Déjà, d'une part, parce que c'est ce que je lui avais dit à l'époque, parce que ma maman n'est pas nécessairement ta maman.
On a chacun notre vision, voilà. Notre subjectivité.
Exactement.
Ouais.
Et parce que ce n'est jamais que ma version de l'histoire. Et ça ne dit rien ni de toi, ni d'elle, en fait, au fond. Et ça dit juste comment moi, je ressens les choses.
C'est pour ça que parler en jeu, c'est la méthode que tu affectionnes ?
C'est ce que je me suis dit, en tout cas. C'est que s'il y a vraiment une façon de dire, je ne prétends pas dire la vérité absolue sur quelqu'un, mais juste comment moi, je vis les choses, même si c'est d'une manière absolue que je les vis. Et même si à ce moment-là où je les vis, je pense que c'est la seule façon de les vivre.
C'est ça, et tu y crois.
C'est en fait, ce n'est jamais que subjectif.
Mm-hmm.
Moi, j'aime bien la subjectivité. Hein.
Et toute la nuance et la subtilité et toutes les couches que ça peut amener, en fait.
Et que tout peut toujours changer. Ce n'est pas parce que j'ai écrit « je » à ce moment-là que ça s'est marqué dans la pierre et que
c'est
dans
ça.
3 ans, je ne pourrais pas écrire « je » et écrire autre chose.
Autre chose. Magnifique. Oh, Chiara, c'est beau. Donc, ma question maintenant, qui est la dernière, et que j'aime bien te demander, et demander à tout le monde, dans ce processus d'écriture, tu choisis des mots, tu les sélectionnes. Est-ce qu'il y a des mots, quand tu les poses sur le papier, tu sens qu'ils te délivrent ?
Oui. Oui, les mots, c'est très, très important. Et j'aime bien trouver les mots justes. Je passe beaucoup de temps à chercher le sens et ce qui sonne vraiment juste. Aussi, j'ai envie de dire, dans une dimension corporelle. Alors, je reviens avec les mêmes mots, hein, mais oser, pour moi, ça compte beaucoup. S'autoriser, se légitimer, c'est important de se légitimer.
Se légitimer, encore un autre. Quoi. Voilà.
Et liberté, vraiment.
Je l'entends souvent, celui-là, alors ça me met en joie. Mais s'autoriser, se légitimer, c'est encore une autre version des choses, quoi. Ouais. Et ça doit venir de soi, pour toi ? Ça doit venir de soi ?
Oui, je pense qu'on attend beaucoup trop parfois pour faire les choses et pour faire des choses qui nous tiennent à cœur et qui sont vraiment importantes. On attend parfois beaucoup trop. Alors, je ne dis pas qu'il en faut pas un peu.
Mm-hmm.
C'est quand même chouette.
Ça fait du bien, ça fait du bien quand même.
Ça fait du bien. Et puis, c'est bien aussi si on sait qu'on a accès à des choses et que tant mieux. Mais je pense qu'au fond, si on ne passe pas par une autorisation qui vient de soi... On reste bloqué, peut-être pas tout de suite, mais plus tard dans ce qu'on veut faire.
Mm-hmm.
Parce qu'il y a toujours un moment où quelqu'un ne va pas être d'accord. Et on ne va pas être d'accord ou va préférer qu'on ne fasse pas ci ou qu'on ne fasse pas ça.
Mais toi, tu amènes quelque chose encore de différent. Est-ce que l'écriture t'amène dans un état de mieux-être, alors ?
Oui, vraiment, oui. Je me sens beaucoup plus épanouie, vraiment beaucoup. Je ne pensais pas, en fait. Hein. J'ai toujours su que j'écrirais... beaucoup dans ma vie, mais que j'avais ce rêve. Et puis à un moment, les rêves, tu te dis, mais même plus tôt, hein, mais moi en tout cas, vers les 40 ans, ça a été, mais oui, à un moment, les rêves pour espérer éditer un livre un jour, il faudrait commencer à écrire deux mots, quoi.
Allez, on s'y met.
Alors, c'est ça que j'avais en tête au moment où ça a un peu explosé. Mais c'est vrai qu'un rêve, à un moment, il faut aussi y mettre du sien physiquement, avec de l'énergie, avec du temps, y consacrer, faire des choix, renoncer à d'autres choses.
Renoncer aussi, oui.
Se dire qu'on ne peut pas tout faire, mais que si on veut faire quelque chose, bah, ça ne va pas tomber du ciel et ça ne va pas se mettre tout seul. Et donc... Et donc, j'ai un peu oublié la question de départ.
Non, c'était ça. C'était, voilà, ça te fait, ça te met dans un état de mieux-être, oui, etc. Mais je suis en train de me dire, au moment où tu m'amènes la suite, que c'est comme un autre conseil. C'est le conseil précieux, ultime, que tu offres aux auditeurs, aux auditrices, quoi. C'est ça, c'est pour soi.
Oui.
C'est pour tout ça, quoi.
Oui, c'est vrai.
Chiara, merci.
Grand plaisir.
Merci
c'était
beaucoup.
Super chouette de
ça me faire. Tenait vraiment à cœur de te voir pour ces thématiques, pour ce que tu amènes dans, dans ta force, dans ce côté aussi de oser... De se confronter aux autres, potentiels, actuels, etc. Je trouve qu'il y a quelque chose de très vertueux, très sain en fait,
merci.
Très sain dans ce que tu fais. Donc merci beaucoup
merci à toi,
pour ta confiance.
C'est un bel espace.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.